Vous êtes sur RTL.
Alors, malgré l'humour de Raymond, Mathias, ce jour-là, il faisait froid.
Ah ouais, c'est clair.
Avance rapide sur votre exploration des mines. D'accord, je comprends un peu ce que. Ouais. On vous retrouve au chaud à la propriété.
Avec Maximilien Debilly, le chef de cave, cette fois-ci. On fait le tour du propriétaire. Notez que 500 à 600 000 bouteilles sont produites là chaque année. Et nous voici pour l'heure dans les caves.
Là, on descend, on s'enfonce sous le sol.
T'as le bon écho de la cave.
Ouais, écho!
Tiens, on va passer par là.
Je vois que ça t'intrigue.
Oui, j'ai vu.
On a une grille.
Ah ouais, vraiment dans les cachots. Hein.
La salle des tortures. Ouais. Et donc là, on arrive dans les caves du 18e siècle, qui sont sous l'église que tu as vue tout à l'heure. Les gens se posent souvent la question pourquoi le champagne coûte cher. Parce qu'il y a un temps de stockage qui est très important. Aujourd'hui, 2024, les bouteilles les plus jeunes que je mets sur le commerce sont des bouteilles de 2020. Ça crée un stock énorme. Donc tu dois stocker 4 millésimes.
D'où la nécessité donc d'avoir du foncier. Alors on remonte direction la salle des cuves où fermentent les vins de l'année. Celles-ci sont en inox, mais elles pourraient être en bois ou en béton. Et là, il faut qu'on commence à dire avec modération.
Oui. On va goûter des cuves, oui. On va prélever des échantillons dans les différentes cuves. Ouais. Et tout à l'heure, on va les assembler pour voir ce que ça donne quand on les mélange.
Santé quand même.
Tiens. Donc ça, c'est un vin tranquille champenois. Donc c'est un champagne sans bulle. Si tu veux en goûter une autre?
Est-ce que t'as déjà demandé à un aveugle
si vous voulez voir? Classique.
Bien servi.
Alors, on a prélevé 5-6 vins différents, on y reviendra tout à l'heure. L'apéro, c'est bien, mais je vais quand même bosser un petit peu. On injecte une colle dans ces cuves qui va aider à faire descendre les impuretés. Et pour bien mélanger, il faut pomper le vin avec un gros tuyau, puis le réinjecter directement dans la cuve. Il y a de quoi ressortir trempé, histoire de bien sentir le vin dans le train retour.
On va s'en prendre dans la tronche, là. N'en profite pas, hein. Attends, il faut que je sois prêt, là.
Ça coule beaucoup, hein. Si je sens mes mains, j'ai l'impression qu'on est samedi soir.
Que je sois prêt, quoi. Attends, je me mets sur mes appuis.
Ah, elle a bien fait de se barrer, hein.
Ouh. Tu m'as loupé. Détends-toi, ça va, c'est bon.
Oh, la scène. Alors, Mathias, il y a quelque chose qui impressionne toujours les invités du 31, c'est le sabrage de champagne. Est-ce que vous avez appris?
Alors, disons que dans une maison comme celle-ci, ça se pratique assez peu, voire pas du tout. Mais une étape qui ressemble un petit peu dans la forme de moi, c'est le dégorgement, puisque au fil de la maturation, la bouteille commence à l'horizontale et elle finit tête en bas. Le but, c'est de concentrer le dépôt dans le goulot avec une petite bulle d'air. Et ensuite, on l'élimine en dégorgeant ici de manière traditionnelle, dite à la volée.
Alors là, je mets mon petit tablier, je prends ma pince à dégorger.
Ça ressemble à un instrument de torture. Hein.
Oui, c'est, entre autres. Je vais relever la bouteille pour amener la bulle d'air à la hauteur du goulot. Et à ce moment-là, quand la bulle d'air va arriver à la hauteur du goulot, je vais ouvrir la capsule. On va dire que c'est un décolletage de la bouteille.
C'est ce que vous voulez.
Là, je vais faire avec un petit mouvement assez énergique, précis.
Ah oui.
Quand vous avez quelqu'un qui sait dégorger, on perd 0,5 centilitre de champagne. Si vous êtes un peu novice, vous pouvez perdre un verre.
Alors, à mon tour, est-ce que je pense que je vais faire mieux que Claude Mandois, 9e génération de vignerons? Franchement, oui.
Tu vas bien caler ta pince à dégorger. Tu la mets contre toi pour la sentir, la bouteille.
Ouais.
Tu la sens bien?
On m'a jamais dit ça.
Pardon, Claude. Pardon.
Mais dans un mouvement continu.
Allez, go. Voilà. Attendez, je bouge bien pour
alors,
pas que ça...
Elle sera pas bleue.
T'as perdu un verre. T'as perdu le verre.
Elle est pas bleue.
Oh, vous exagérez. Il faut que ça redescende un peu, là.
Mais ça redescendra pas vers le haut.
Deux verres perdus, je voulais pas non plus le vexer. On quitte la cave, retour à la surface cette fois. On va montrer comment on assemble un champagne, parce qu'un bon champagne, c'est surtout un bon assemblage. Et forcément, on est obligé de goûter. Alors je me suis dévoué, avec modération. Et puis bon, on recrache quand même.
C'est des 10 centilitres, hein, c'est ça. Et c'est là, au premier nez, qu'on s'aperçoit que l'assemblage des crus apporte quelque chose. Mmh. Immédiatement, tu vas le ressentir. Toutes les qualités de ce qu'on a dégusté avant se rassemblent justement dans l'assemblage. Tu vois, le nez, il est complet. C'est là qu'on a du mal à leur cracher. Pour moi, c'est l'art du champagne.
Ouais, alors disons que c'est un petit peu la bouteille RTL. Il y avait du potentiel. Et c'est sur ce moment de convivialité que je voudrais évidemment remercier beaucoup la Maison Mandois. On s'y sent vite à la maison, justement. Merci pour cet accueil, pour la transmission, pour ces moments de partage. Et à propos de partage, Claude a tenu à nous offrir cette bouteille que vous avez déjà entre les mains, Antoine, un blanc de blanc,
oui,
premier cru 2018. Les Américains appellent ça un happening, c'est-à-dire que travaux pratiques. Vous allez essayer de l'ouvrir, on va voir si vous perdez plus ou moins d'un ou deux verres.
La capsule, c'est bon. Ouais, venez ici. Je sens que je.
Ouais.
Hein, on va essayer de sauver le studio. Voilà. Je vois Boris, notre réalisateur, qui me fait des gros yeux. Non, surtout pas. On ne fait pas ça.
Attention.
Est-ce que ça va popper?
Ah
ça
oui.
Ça pop.
Bravo.
Et
petit pop. Attention,
oh, bah, ça va.
Petit
oh
là pop.
Et ben, vous êtes privé de champagne, Valérie.
Très bien.
Gros pop.
Belle flûte. Merci beaucoup, Mathias Lugard. On va s'en délecter. Toujours, on le rappelle.
Avec modération, évidemment.
Merci beaucoup, Mathias Lugard. 7h56.
Un bonbon sur la langue.
Muriel Gilbert.
Le dernier bonbon de 2023, la dernière chronique de l'année pour Muriel Gilbert. Bonjour Muriel.
Et bonjour Antoine, ami des mots, bonjour.
Alors, vous êtes prête pour le réveillon, m'avez-vous dit?
Et oui, et d'ailleurs, comme une bonne maniaque de la précision que je suis, je ne voudrais surtout pas manquer l'heure exacte de la célébration, minuit, 00h00 sur nos montres modernes et sur nos smartphones. Et ce matin, en vérifiant les horloges de ma maison, hein, pour être précise, je me suis rendu compte que mon four indique 5 minutes de plus que mon téléphone, qui lui-même indique 2 minutes de moins que ma montre. Montre, a dit mon compagnon. Il voulait dire « montre-moi ta montre », bien sûr. C'est quand même rigolo, je me suis dit, que la montre qui donne l'heure et le verbe « montrer » soient si proches.
Oui, c'est vrai que c'est assez proche.
Ni une ni deux, vous me connaissez, je suis partie fourrager dans mes grimoires préférés et j'ai trouvé la réponse, comme souvent, dans le dictionnaire historique de la langue française. Voici l'histoire. Le verbe « montrer » est un descendant du latin « monstrum », qui a donné quoi, à votre avis, Antoine ?
Monstre ?
Eh oui, monstre. Monstrum désigne à l'origine un prodige avertissant de la volonté des dieux, un signe divin. Par extension, il s'applique à un objet de caractère exceptionnel ou à un être surnaturel. Et en français, par un glissement lui assez naturel, monstre prend le sens de prodige, miracle, puis de choses prodigieuses, incroyables, ou finalement de action monstrueuse, criminelle, avant de prendre sa signification actuelle un peu effrayante. Mais le monstrum latin a donc aussi donné naissance à un verbe monstrer, puis montrer au sens contemporain d'exposer au regard.
Et est-ce que c'est le verbe montrer qui a donné la montre ?
Et oui, sauf que montre, au départ, au début du XIIIe siècle, a le sens de modèle, d'exemple. En particulier dans le commerce, par exemple, où le mot désigne la partie de la marchandise que l'on montre au public pour lui donner envie d'acheter. La montre est également un peu plus tard une foire commerciale, une montre, où on expose des marchandises. Mmh. D'ailleurs, une mostra en italien, c'est toujours une exposition, la mostra de Venise, tout ça.
Tout à fait.
Puis, au XVIIe siècle, la montre est devenue cette boîte vitrée dans laquelle on exposait les marchandises.
Une vitrine.
Et voilà, exactement. Puis, le mot s'est appliqué au cadran de l'horloge, qui lui aussi est sous verre, comme en vitrine, et aussi parce qu'il montre l'heure. Et en français d'Afrique, montre se dit d'ailleurs encore de tout ce qui affiche l'heure, pendule, l'horloge, etc., comme en ancien français de France. Et puis chez nous, ce terme s'est spécialisé pour désigner cette horloge portative de petite dimension, qu'on a appelée montre de poche, montre gousset, puis à partir de 1922, montre bracelet, terme qui a complètement disparu aujourd'hui, puisque la montre bracelet a éliminé toutes les autres sortes de montres. Et du coup, l'horloge qu'on porte au poignet s'appelle désormais montre tout court. Une chose banale et quotidienne qui nous ferait presque oublier qu'elle est une cousine du monstre.
Du monstre à la montre, une étrange histoire de famille. Merci beaucoup Muriel Gilbert. Et bonne année.
Bonne année à tous.